Voilà, alors écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours du soir donc sur Michel Jury. Alors la première question que je souhaite vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà lu Michel Jury? Est-ce que vous connaissez cet auteur ou pas? Oui? Bien?
Moi, assez bien.
Hein? Assez bien? Donc vous connaissez, oui?
Moi, je suis contre.
Non, non, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce que en réalité, j'ai construit ce cours un petit peu pour, je dirais, des gens qui ne connaissent pas du tout Michel Jury, ceux qui croient peut-être bien le connaître, puisque Michel Jury, c'est quelqu'un qui a eu deux, si vous voulez, deux, une sorte de carrière successive, hein, une carrière en tant qu'écrivain de science-fiction. Et puis une grande carrière également en tant qu'écrivain, donc régionaliste, écrivain de terroir. Donc ça, peut-être que vous ne le saviez pas, hein? Voilà, donc c'est pour ça. C'est intéressant, si vous voulez, parce que évidemment ici aux Utopiales, je vais me focaliser sur la science-fiction, hein, bien sûr, puisque c'est notre cours s'appelle « Troubles et statuts des réalités » donc dans l'œuvre de Michel Jury. Voilà, donc ça c'est un premier, je dirais une première petite précaution oratoire. Ensuite, la seconde, au fur et à mesure du cours, je vais vous faire passer un certain nombre de documents. Alors, dont un document qui est, je dirais, assez rare, qui s'appelle l'Encyclopédia Jurialis. Il y a, excusez-moi, un petit bout de carton, je ne sais pas ce qu'il veut. Voilà, de Jean-Pierre Dupont. En fait, Jean-Pierre Dupont, c'est le pseudonyme de Francis Valéry, hein, qui est quelqu'un qui est très, très connu, hein, auteur, chercheur donc, de la science-fiction. Alors, bien sûr, vous voyez, c'est un petit peu le format, je dirais, fanzine. Hein, c'est pas vraiment un livre, mais c'est très intéressant. Gérard Klein l'a préfacé. Gérard Klein qui donc, fait partie de ces Utopiales. Et c'est un document qui date de 1989, qu'on ne trouve absolument plus donc, sur internet, et donc qui recense en fait tous les termes que Michel Jury a pu créer donc dans son parcours d'écrivain de science-fiction. Voilà ce qu'on appelle des acronymes que vous allez donc voir. Alors c'est le premier document que je vous fais passer. Voilà, comme ça vous y jetez un petit coup d'œil. Voilà, deuxième, donc je vais vous présenter la biographie donc rapidement hein, quand même de Michel Jury. Et ensuite, je vais rentrer. Bon, moi, je suis une professeure de littérature, hein, donc bien sûr, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous faire partager donc des textes. Alors, avec évidemment trois textes que vous connaissez certainement, donc Le Temps incertain, bien sûr, qui est donc le texte mythique, hein, bien sûr, de Michel Jury. Hein, c'est celui par lequel il a été connu dans la science-fiction. Les singes du temps. Donc deuxième, alors c'est pas vraiment une suite d'ailleurs, hein, c'est plutôt, je dirais, une variation de l'univers donc chronolithique. Et puis le troisième, qui s'appelle donc Soleil chaud, poisson des profondeurs. Je vous expliquerai bien sûr les titres aussi, parce que ce sont Michel Jury avait le bonheur de créer des titres, je dirais, assez bonsoir Marie, assez intéressant. Voilà, et donc je vais vous lire des petits passages, surtout du temps incertain, parce que je trouve que c'est quand même le texte fondateur, hein, bien sûr, le récit fondateur donc de Michel Jury. Et puis on va faire un petit peu de promotion quand même également, puisque Michel Jury est décédé en janvier 2015. C'est quelqu'un qui, je vous en parlerai par la suite, qui avait quand même une assez petite santé, on va dire, quelqu'un qui est assez fragile. Donc il a eu une maladie du cœur là, c'est les dernières années de sa vie, et il a continué à écrire jusqu'en, donc il est mort le 9 janvier 2015. Donc cette année, il a continué à écrire donc jusqu'en décembre 2014, et il nous a laissé des textes posthumes, donc que j'ai édité avec l'aide de Richard Comballo, qui est un anthologiste qui connaissait très bien Michel Jury également. Ça s'appelle Les Carnets chronolithiques. Voilà, c'est édité aux Presses universitaires de Bordeaux. Et ils sont en vente, ils viennent juste de sortir, et ils sont en vente en exclusivité, ils ne sont pas encore en vente sur Internet, en exclusivité donc ici à la librairie des Utopiales. Voilà, donc je les ai amenés aujourd'hui. Voilà, donc c'est le dernier texte de Michel Jury, l'autobiographie donc, de Michel Jury. Voilà. Alors ensuite, derrière, vous allez voir un certain nombre de photos qui vont défiler. Alors ces photos défilent un petit peu, je dirais, dans un cadre aléatoire. Ça c'est quasiment les dernières photos que nous avons de Michel Jury. parce que c'est sa fille Dani que vous voyez donc à l'écran qui nous a fait l'immense honneur, voilà, de nous donner donc ses photos, de nous prêter ses photos. Hein, c'est sa dernière, ça c'est sa dernière photo avec son petit-fils, donc Maël. Et donc ces photos-là sont des photos familiales dont nous nous sommes en partie servis évidemment pour ce livre. Ça c'est Nicole Jury, donc sa femme, qui nous aide beaucoup hein, pour justement perpétuer l'œuvre donc de l'écrivain. Et donc malheureusement je n'ai pas pu, ces photos sont trop grandes hein, enfin en termes je dirais techniques, et donc j'ai pas pu les mettre sur mon PowerPoint, donc on fait un diaporama, mais les séquences sont un petit peu mélangées. Par contre Emmanuel, ce n'est pas le bon, c'est le bon diaporama, ça va. Parce qu'en fait, il passe tout l'ordinateur. J'avais sélectionné un, mais bon, voilà. Donc ça, c'est avec sa fille Dani également. Donc je me retournerai de temps en temps et puis je vous ferai des petits commentaires. Voilà. Donc vous allez voir que c'est donc un cours hein, que j'ai conçu de façon assez libre. Parce que Michel, alors pour plusieurs raisons. La première raison qui est pédagogique, c'est que Michel Jury, c'était quelqu'un qui croyait donc à la physique quantique, enfin qui croyait, qui était complètement fasciné donc par la physique quantique. Et quand j'ai commencé à travailler sur son œuvre et à faire des entretiens avec lui, il m'a dit que ses récits et ses romans étaient des fictions quantiques. Alors bon, autant je comprends, je suis une littéraire, mais j'arrive, vous voyez, à comprendre un petit peu au moins les principes, je dirais, de base de la physique quantique. Mais la physique quantique appliquée à la littérature, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est pas la première fois, évidemment, que des écrivains font des expériences scientifiques. Hein. Zola, par exemple, dans le roman expérimental, a également utilisé des principes de la science pour créer une œuvre littéraire. Mais là, Michel Jury donc, se sert de la physique quantique pour, justement, écrire ses œuvres. Donc, la fiction quantique, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est d'abord, une déstructuration complète du récit et de la chronologie du récit. D'accord ? Et donc, moi, je vais, évidemment, rester d'abord dans un temps dans la chronologie pour vous parler un petit peu de sa vie. Et puis ensuite, on va justement naviguer comme ça à travers les textes pour que vous compreniez bien qui était vraiment Michel Jury et surtout quel type de réalité il va donner à lire à ses lecteurs. D'accord ? Voilà. Alors, qui était donc Michel Jury ? Quelques éléments biographiques. Alors d'abord, Michel Jury, c'est pas du tout un Parisien. Il est né en 1934 à Razac-Daimé, en Dordogne, de ses parents Claudia et Joseph Jury. Alors, Claudia et Joseph Jury, vous allez les voir passer à un moment donné. Ah oui, ça, je m'arrête là, 30 secondes quand même. Vous avez remarqué la date ? C'est une photo qui date de 1977. Il avait tourné ça avec des étudiants de l'IUT de journalisme de Bordeaux et qui, pour s'amuser, avaient dit oh « ben, Monsieur Jury, on va faire une croix avec justement pour faire une tombe factice. » Donc à Issy-Jacq, en Dordogne, où il habitait à l'époque. Et puis il a choisi ses dates. Il a dit « Je vais mourir en 2015. » Et ça, je peux vous dire que ça nous a quand même énormément troublés. On était en 77. Vous voyez, il aurait pu choisir n'importe quelle autre date, 2017, vous voyez, 2016, enfin, non, 2015. Donc c'était assez, assez troublant. Voilà, donc Claudia et Joseph Jury. Son enfance, donc il la passe dans le Périgord. Alors c'est une enfance assez pauvre, parce que ses parents font des petits boulots, sont cultivateurs, métayers, mais bon, il n'y a pas du tout de, si vous voulez, ce sont des gens qui ne sont pas du tout propriétaires, vous voyez, donc ils vont vraiment avoir une série comme ça de petits travaux, et vous allez voir que Michel Jury, quand il sera jeune, avant de devenir écrivain, vraiment à succès, eh bien il va passer comme ça toute une période où effectivement lui aussi va vivre de petits travaux et de petits boulots. Voilà. Mais c'est une famille où on se raconte beaucoup d'histoires. Claudia Jury, dans les années 80, au début des années 80, va même faire donc sa maman, qui est une vieille paysanne qui raconte toujours beaucoup d'anecdotes, va même faire une émission avec FR3 qui s'appelle Claudia Jury raconte. Voilà, qui est sur les archives de l'INA. Si vous êtes encore là, samedi, on fait une table ronde, donc hommage à Michel Jury. Et nous avons l'association des amis de Michel Jury, dont je suis la présidente, va vous montrer donc une petit montage de Lina. Et voilà, vous verrez comme ça Michel Jury à travers ces différents médias et à différentes époques. Je ne sais pas si dedans on a... Non, on n'a rien mis sur Claudia Jury. Ah non, du tout. Bon, d'accord. Voilà. Alors, je vous lis pour lui ce que c'était que le Périgord. Des dizaines de collines rondes, cahotées sur une terre hachée de failles étroites, de lourdes gorges colmatées par la brume. Les îles rouges des hameaux flottaient sur l'immensité grise et verte de la forêt. J'avais 10 ans et je communiais avec le monde. Michel Jury est quelqu'un qui est très proche de la terre, très proche de sa région, très proche de ses parents. Hein, y a un lien vraiment particulier, si vous voulez, qui va le relier à la terre, à ses parents et bien sûr donc au Périgord. Voilà. Alors il commence très très jeune à écrire de la science-fiction. Par exemple, aux Étoiles du Destin, vers l'âge de 17 ans. Et puis, bien sûr, il écrira, mais plus tard. Et puis, ce sera, ce sera édité beaucoup plus tard, La Machine du Pouvoir. Alors, il écrit d'abord, en littérature générale, un premier roman qui va sortir chez Julliard en 1957, qui s'appelle Le Diable Souriant. Alors, pourquoi ça s'appelle Le Diable Souriant ? Absolument rien à voir avec le fantastique. Nous sommes en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale et le Diable Souriant, c'était le nom justement d'un chef de résistant de cette région-là qu'il va mettre en scène dans ce premier roman. Voilà. Ce premier roman lui vaudra les honneurs de la télévision. Hein, il va passer à la télévision pour la première fois en 1958. Et en 1960, la collection Le Rayon Fantastique va sortir donc aux Étoiles du Destin et La Machine du Pouvoir. Alors, ces deux premiers romans, il va les signer sous le pseudonyme de Albert Higon. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce nom de Albert Higon. Il n'y aura que deux pseudonymes dans la vie de Michel Jury. Il y aura donc Albert Higon pour essentiellement ses débuts dans la science-fiction. Hein. Le Temps Incertain sera publié sous le nom de Michel Jury. Et il va utiliser également un deuxième pseudonyme qui sera François Collin. François Collin pour un roman érotique. Il n'aimait pas du tout en parler, mais moi je vous le dis. Voilà, c'est un roman, il a écrit un seul roman. Érotique science-fiction quand même, hein, l'histoire de deux femmes voilà, qui fusionnent ensemble finalement. Enfin, un érotisme de science-fiction, on va dire. Voilà. Ces deux premiers livres sont vraiment salués comme une révélation et Albert Higon fait partie à cette époque de cette génération française, des Carsac, Enberg, Renard, qui découvrent alors l'âge d'or de la science-fiction américaine Christine Renard et qui se lance dans la construction d'une science-fiction nationale de même souffle. Pourtant, entre 1960, donc j'ai oublié de vous dire, pardon, en 1960, La Machine du Pouvoir va obtenir le prix Jules Verne, qui était quand même, je dirais, un prix d'importance à cette époque. Le prix de la science-fiction française, le Grand Prix de la science-fiction française, n'existait pas encore, puisqu'il s'est créé quasiment la même année donc, que la sortie du Temps Incertain, hein, dans les années 73, justement, par Jean-Pierre Fontana. Et donc, entre 1960 et 1973, eh bien, il y a 13 ans qui vont se passer. Et 13 ans pendant lesquels, eh bien, Michel Jury ne publie plus rien. Alors, il ne publie plus rien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il a besoin de travailler et ses publications, évidemment, certains manuscrits sont refusés, ne lui rapportent absolument pas d'argent. Il faut impérativement qu'il vive. Donc, il va faire toute une série de petits boulots. Et je dirais que pendant ces 13 ans, eh bien, c'est là que, lentement, il va, je dirais, créer son monde chronolithique. Il va mettre à peu près, vous voyez, 5 ans. Pour écrire Le Temps Incertain. Hein, il va y penser à la fin des années 60. Pourquoi ? Parce qu'on est en plein cœur de la mouvance du nouveau roman, donc dans la littérature. Il va lire le nouveau roman, il va lire par exemple des gens comme Michel Butor. Et donc, ces romans-là, si vous voulez, il va se dire, j'ai envie d'écrire un roman comme ça, où le récit est un petit peu déstructuré. Et donc, il va tenter d'écrire, réfléchir à un roman qui aura cette dimension-là. Voilà. Et d'ailleurs, Le Temps Incertain, au départ, si vous lisez le début, je le reprendrai tout à l'heure, eh bien, c'est pas forcément de la science-fiction. Et puis, petit à petit, eh bien, ça, évidemment, ça, c'est parti vers la science-fiction. Et je vous dirai donc comment après. Donc, voilà. Donc, plein, je dirais, de petits boulots. Une dizaine, alors je cite Michel Jury, il a exercé une dizaine de petits métiers pas marrants qui exigeaient soit le port de la cravate, soit celui d'une paire de bottes. Plus tard, il a été séduit par la profession d'auteur de science-fiction pour laquelle ni la cravate ni les bottes ne sont nécessaires et qui, en outre, permet de se lever tard quand les champignons ne se trouvent pas. Parce que Michel Jury, qui aimait la Terre, était un grand amateur donc, de champignons. Voilà, il nous a même raconté que, petite anecdote en passant comme ça, qu'un jour, en allant chercher des champignons, eh bien, il avait vu une soucoupe volante. Voilà. Bon, je ne peux pas vous en dire plus. Il avait un rapport à l'ufologie aussi qui était assez particulier. Voilà. Et parmi ses petits boulots, par exemple, autre anecdote qui est quand même intéressante, il a été précepteur des enfants de Joséphine Baker au château des Milandes, qui se trouve également donc dans la région du Périgord. Voilà. Il a beaucoup. Alors, une chose qui est importante pour le nouveau roman. Michel Jury a travaillé plusieurs années de suite comme représentant pour des grands laboratoires pharmaceutiques. Voilà, il le raconte, si vous lisez ce livre, il le raconte très très bien. Et donc, il trafiquait avec ses collègues pas mal de médicaments, voire des amphétamines. Et cette notion-là, on va la retrouver complètement dans Le Temps incertain. Voyez, et ça, c'est important parce que l'idée, je pense, du temps incertain a été inventée à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il s'est dit, ces drogues qu'il avait à ce moment-là dans sa vie d'importance capitale, eh bien, vont lui permettre d'inventer la machine à explorer le temps via la drogue, puisque dans Le Temps incertain, il n'y a pas de machine à explorer le temps, par exemple, comme chez Wells, hein, où, je dirais, les suivants, tous les inventeurs après de machines à voyager dans le temps. Et donc, chez Michel Jury, eh bien, c'est une drogue, la chronolyse, qui permet de voyager dans le temps. Mais on ne bouge pas, en fait. On voyage dans le temps, dans sa tête. Vous voyez ? Donc ça, c'est la première chose qui est importante pour comprendre son rapport à la réalité. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important. Voilà. Alors, 1973, après tous ces petits boulots, eh bien, Michel Jury, envoie... Alors, il voit la création, de cette collection. D'accord ? Voilà. Là, vous avez le premier opus de cette collection, donc, Ailleurs et Demain, qui vient d'être créée par, Gérard Klein. Hein, Gérard Klein, que vous pourrez évidemment écouter durant ses Utopiales, qui est vraiment un acteur absolument essentiel de la science-fiction française. Oh, il lit par exemple Le Vagabond de Fritz Leiber et il trouve ça absolument génial et il dit « Je vais envoyer mon manuscrit à Gérard Klein ». Pas de nouvelles de Gérard Klein. Et puis, un jour, il va recevoir une lettre de Gérard Klein. Donc, à ce moment-là, il vit dans la dépendance d'un château. Ses parents sont devenus gardiens de château, donc en Dordogne. Il vit vraiment dans des conditions assez pauvres. Il aide ses parents. Et puis, un jour, il voit la lettre de Gérard Klein. Pour un écrivain, la lettre de Gérard Klein, c'est quelque chose d'important. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ? Est-ce que c'est un refus ? Est-ce que c'est une acceptation ? Donc, à ce moment-là, Michel Jury ouvre la lettre. La lettre, nous l'avons reproduite donc dans le livre. Et la lettre de Gérard Klein, c'est vraiment l'acceptation, si vous voulez, de ce manuscrit donc du Temps incertain. Et Gérard Klein lui dit vraiment, vous avez révolutionné le genre de la science-fiction française. Et donc véritablement, ce texte-là, c'est un très beau texte et un texte fondateur. Voilà. Donc nous sommes en 1973 et à partir de là, la carrière de Michel Jury va littéralement exploser. Alors, petite question que je vous pose. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que cette collection... Alors, malheureusement, vous voyez, on est dans les années 2000, on n'aura plus ces magnifiques couvertures. Hein. Ça, c'est une réédition de Soleil chaud, Poisson des profondeurs. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il y avait ces magnifiques couvertures? Donc, je vous en montre plusieurs. Hein. Ça, c'est Mets le monde. C'est le dernier roman de Michel Jury. Pourquoi il y avait ces couvertures, là, vous voyez, un petit peu colorées? Bien sûr, ça fait penser au futur, à la science-fiction. Mais pour l'anecdote, en fait, c'est une usine de chocolat. qui leur passait donc les petites feuilles d'aluminium. C'est pour ça que vous avez, voyez, des dessins différents. Et malheureusement, il y a eu, je crois, dans les années 2000, l'usine de chocolat a fermé et n'a plus pu donc fournir les éditions Lafond pour faire ces très belles couvertures, hein, qui sont évidemment des couvertures cultissimes. Voilà, je ferme la parenthèse. Hein, c'est Gérard Klein qui m'a raconté ça, parce qu'un jour, je lui ai posé la question tout simplement. Voilà, alors, cette œuvre donc novatrice du temps incertain sera suivie, donc là c'est vraiment le début de la carrière en science-fiction de Michel Jury. Donc on aura par exemple Les singes du temps, hein, qui est le deuxième opus, ou encore donc après Soleil chaud, Poisson des profondeurs, hein, tout ça c'est en 73, 74, Les singes du temps, 76... Je ne vous dis pas de bêtises, Soleil chaud, donc Poisson des profondeurs. Il y aura ensuite de grands succès, comme par exemple celui-ci. Vous avez Poney Dragon, d'accord, aux éditions donc Kesselring. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, c'est l'édition de la fin des années 70. Je vais vous la faire passer. Et Michel Jury, a, d'ailleurs, à cette occasion-là, a été, reçu par Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe. Vous voyez que vous avez, d'ailleurs, c'est le seul document de l'INA disponible donc au grand public sur Internet. Vous pouvez voir Michel Jury et Bernard Pivot. Michel Jury nous a raconté que Bernard Pivot avait été très gentil avec lui parce qu'il y est allé tout seul. Il ne connaissait pas du tout ce monde de la télévision. Et là, vous voyez, rentrer quand même dans ces émissions qui sont des grandes émissions donc télévisuelles sur la littérature. Voilà. Donc, ces grands romans vont être suivis ensuite par tout un tas de romans. Alors, est-ce que je vous en ai amené quelques-uns ? Oui. Donc là, vous avez... Alors, ça, c'est intéressant. Si vous ne connaissez pas Michel Jury, vous le trouvez à vraiment à un petit prix sur Internet. C'est le Livre d'or qui date de 1987. Voilà, vous avez quand même ses plus grandes nouvelles aussi. Je vous le fais passer. Voilà. Ou encore... Un autre, Quand le temps soufflera. Alors ça, c'est une réédition, hein, parce que ça a été... si vous avez du mal à rentrer, par exemple, si vous avez du mal à rentrer dans le temps incertain, c'est une lecture qui est un petit peu, parfois, qui peut être difficile, eh bien, vous pouvez lire ce texte-là, qui est plus facile, qui a été publié d'abord au Fleuve Noir. Et Michel Jury aimait beaucoup ce texte, et je trouve que c'est un beau texte aussi. Hein, voilà, Quand le temps soufflera, beau titre également. Hein. Voilà. Quelques titres en passant, donc qui ont eu beaucoup de succès. Les animaux de justice en 1976, Le jour des voix, Le sablier vert en 1977, L'Empire du peuple toujours en 77, donc Poney Dragon, je vous l'ai dit, donc en 78. Hein. C'est vraiment Poney Dragon pour moi. C'est vraiment un texte absolument superbe. Et à ce moment-là, eh bien, Michel Jury devient, bien malgré lui, le chef de file de la science-fiction française. Il n'y a pas un magazine ou une revue qui n'accueille ses nouvelles ou ses interviews. On va voir Jury donc, dans le village d'Issy-Jacques, comme on va voir un véritable guide spirituel, voire donc un gourou. Voilà, Gérard Klein ira le voir, John Brunner ira le voir, c'est ce qu'on appelle le pèlerinage d'Issy-Jacques. Le regretté Roland Wagner, qui est décédé en 2012, avait rencontré Michel Jury en 1974. Roland était très jeune et quelques années plus tard, il est allé le voir donc à Issy-Jacques. Il a frappé au volet, il a fait du stop toute la nuit, etc. Donc il allait bien sûr le voir. Les frères Bogdanov aussi, ça c'est moins connu, mais en fait c'est Michel Jury qui a, je dirais, aidé les Bogdanov à intégrer le milieu de la science-fiction française de l'époque. Et puis évidemment, vous connaissez l'émission Temps X. Hein, il y a un très beau livre, hein, qui va paraître, qui s'appelle Nos années Temps X. Là, je ne sais pas si c'est pas déjà paru, mais en tout cas, il va paraître avant Noël. Très très beau livre donc sur cette période-là. Et donc les frères Bogdanov, à cette époque-là, cherchaient quelqu'un pour pénétrer ce milieu de la science-fiction, et donc c'est Michel Jury qui va les parrainer en quelque sorte. Voilà, et Temps X, eh bien c'est évidemment une référence au temps incertain de Michel Jury. Voilà, c'est pour ça, ce sont les Bogdanov, hein, qui l'ont raconté eux-mêmes. Voilà, quelques autres textes comme ça, Le territoire humain en 1979, L'univers ombre, Les îles de la lune, qui a été retravaillé également donc il y a quelques années. Quand le temps soufflera, la série inachevée des Colmateurs, par exemple, bon, etc., etc. Et puis, à partir, je dirais, des années... Alors, j'oubliais, pardon. En 1982, L'Orbe et la Roue, bien sûr, et Le Jeu du Monde en 1985. Alors, à partir de 1985, bon, Michel Jury travaille beaucoup, écrit beaucoup, mais il ne gagne pas beaucoup. Il arrive à peine à faire vivre sa famille et donc il y a une idée qui germe dans son esprit, c'est de se tourner vers le roman dit paysan. C'est une époque où les grands auteurs, je pense par exemple à Michelet ou à Signol, les grands auteurs donc, des romans paysans commencent à avoir un succès assez important. Et puis de toute façon, Michel Jury voulait écrire son grand roman paysan. Et donc il va commencer vraiment à y penser et il va petit à petit quitter complètement la science-fiction pour se tourner vers la littérature réaliste. Ce qui lui fera dire plus tard que c'est un double auteur. Michel Jury, c'est quelqu'un qui a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Voilà. Si vous voulez comprendre Michel Jury, il faut toujours penser à ça. Parce que par exemple, quand vous lisez... Alors c'est très étonnant parce que quand on sait ça et qu'on relit les œuvres, il y a quand même des clés dans les romans. Et par exemple, son héros Vincent Le Rouge, qui est un héros, un jeune héros qui a 14-15 ans dans Le Vrai Goût de la Vie, qui est son premier grand roman de terroir, qui va avoir du succès, qui va très très bien se vendre, eh bien à un moment donné, il entre dans une grange, il voit une porte, et il dit, si j'ouvre cette porte, ce sera une porte sur l'été. Vous voyez ? Donc une porte sur l'été, c'est évidemment un roman de Robert Heinlein que Michel Jury adorait. Il y a des clés comme ça. Je ne sais plus dans quel roman, je crois que c'est dans la série des Colmateurs, vous avez à un moment donné un astronaute qui vit dans un magnifique vaisseau, qui dit qu'il a perdu son couteau. Il a un couteau dans sa poche. Vous imaginez un astronaute en plein cœur de l'univers qui a un couteau comme un paysan? Oui, ça c'est Michel Jury, c'est-à-dire qu'il y a des signes comme ça. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que les deux mondes vont complètement se mélanger. Je vous parlerai des vaches dans très peu de temps.
Il a déjà pensé fusionner les deux univers, c'est-à-dire faire une sorte de roman de terroir de science-fiction, science-fiction-terroir.
Si, alors il a écrit des nouvelles comme ça. Il y en a notamment qui s'appelle une nouvelle qui s'appelle Le Compagnon du Paysan, qui est une très jolie nouvelle où en fait on mélange complètement le monde paysan avec bien sûr l'arrivée d'extraterrestres et l'ufologie. Voilà. Oui, non, mais ça, Michel Jury ne l'a pas fait parce que. Je vais vous dire tout simplement pourquoi, pour une question professionnelle. C'est-à-dire, comme il a navigué dans deux milieux professionnels littéraires qui est totalement étanches, il s'est dit, si j'écris ça, je ne serai pas crédible, ni dans ce milieu-là, ni dans l'autre. Mais je pense que sa grande idée, ça aurait pu effectivement être cela. Mais la nature est très présente dans certains romans de science-fiction. Par exemple, dans le dernier, dans Mais le Monde, qui date de 2010, qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire, vous avez la nature donc, qui est vraiment présente dans la vie donc, de l'héroïne de Mai. Hein, c'est quelque chose qui est très... les saisons, la nature, les champignons, vous voyez, tout ça, c'est Michel Jury, et ça, c'est présent dans certains romans donc, de science-fiction. Donc déjà, voyez un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire que on a déjà des univers, voyez, qui vont se mélanger. Et dans le temps incertain, vous avez effectivement un certain nombre d'univers qui vont se mélanger. Alors, un de ses derniers écrits, alors qu'on a publié donc dans l'association, qui s'appelle L'adieu à la verte prairie. Donc c'est une nouvelle. Et alors c'est une nouvelle. Bon, j'ai fait une toute petite préface. Et c'est une nouvelle où je parle d'une nouvelle qui est un palimpseste jorien. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce texte-là, vous avez du fantastique, vous avez un peu de science-fiction, vous avez le titre, bien sûr, hein, La Verte Prairie, qui fait référence donc à la campagne, et tout est un petit peu mélangé, et vous avez une sorte de codex, en fait, donc de l'œuvre de Michel Jury. C'est la dernière nouvelle hein, qui a été publiée donc, en 2013. Voilà. Et donc, à partir des années, je vous dis, après 1985, eh bien, donc Michel Jury, d'abord, va quitter Issy-Jacques. Il va s'installer à la Bambouseraie. Pourquoi ? Parce que sa belle famille a besoin Donc la belle famille du côté de Nicole Jury a besoin donc de Nicole et Michel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Bambouseraie en Duse, c'est un magnifique endroit. Et donc Michel va être très très vraiment très heureux de s'installer là-bas. Très triste quand même de quitter sa Dordogne natale, mais il va intégrer complètement une nouvelle vie. C'est pour lui, c'est un nouveau départ. Et du coup, il va laisser derrière lui évidemment son passé, mais aussi la science-fiction, le futur. Voyez, et donc il va intégrer un nouveau milieu littéraire professionnel qui est celui, donc Gérard Klein va l'aider, va lui faire rencontrer parce que Michel Jury sera toujours donc publié chez Lafon, hein, même pour ses romans donc régionalistes. Alors je vous en ai amené deux, voilà. Alors Le vrai goût de la vie qui est le premier. Alors j'ai pris les éditions de poche. Et puis, un roman, je pense que si vous voulez connaître Michel Jury, c'est le roman qu'il préférait, et à mon avis, je pense que c'est le meilleur. Son roman régionaliste, ça s'appelle La grâce et le venin. Et c'est l'histoire d'une leveuse de mots. Alors, vous savez, une leveuse de mots, ce sont ces femmes ou ces hommes qui, dans la campagne, donc on appelait des guérisseurs, qui vous enlèvent les zonas, etc. Voilà, Michel Jury était complètement fasciné par donc ces personnages-là. Voilà, donc Michel Jury, à partir de ces années-là, eh bien, va intégrer la littérature générale. Il va avoir véritablement, je dirais, beaucoup de succès. Hein. Il va vendre, je dirais, 200, en moyenne à peu près entre 150 000 et 250 000 exemplaires, alors que, vous voyez, par exemple, dans la science-fiction, il en vendait à peu près 10 000. Donc, pour lui, ben ça y est, je veux dire, le succès est là. C'est vraiment ce qui va lui donner du confort dans sa vie. Il est presque arrivé, comme il dit. Et donc, eh bien, pendant plusieurs années, jusque dans les années 2006-2007, eh bien, il va donc être complètement dans la littérature régionaliste. Voilà. Alors, je dirais, je vous donne quelques titres comme ça. Le vrai goût de la vie, Une odeur d'herbe folle en 89, Le soir du vent fou 91, La grâce et le venin 92, Au cabaret des oiseaux en 1993, La source au trésor en 94. Il va même écrire un guide pratique sur les bambous, parce que Michel lui était complètement fasciné par les bambous. Voilà. Et donc, beaucoup de titres, hein, évidemment. Il va écrire aussi sur un roman sur l'histoire de la soie. Ça va s'appeler La vallée de la soie. Donc là, nous sommes dans les années 80. Oui, je crois que je ne vous dis pas de bêtises, 95-96. Voilà. Et alors, à partir des années 2007-2006, eh bien, il va regretter la science-fiction. Il va commencer à réfléchir sur la science-fiction. Et donc, ça va donner son dernier roman, qu'il va donc quasiment finir d'écrire dans les années, en 2009. Il sera publié en 2010. Et donc, ça s'appelle « Mais le monde ». Et ça, c'est le dernier livre donc, de Michel Jury, qui a obtenu donc, le Grand Prix de l'Imaginaire. Voilà. Donc maintenant que je vous ai dressé, je dirais, le portrait de Michel Jury, on va reprendre ça et on va essayer donc, je dirais, de travailler sur ce trouble et cette réalité que nous allons trouver dans son œuvre. Alors je vous ai dit, Michel Jury, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. En fait, derrière, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons une conception dichotomique de la réalité. Quand je dis dichotomique, ça veut dire que vous voyez qu'il y a déjà deux univers qui ne se mélangent ou qui ne se mélangent pas, d'ailleurs. Hein. C'est une personnalité qui vit complètement dans ces deux univers-là. Michel Jury a toujours été complètement fasciné donc, par la science-fiction. C'est toujours intéressé, je dirais, aux problèmes vraiment de la société du futur. Par exemple, c'est quelqu'un qui a été alors, non seulement fasciné par la physique quantique, mais aussi par les écrits de Jacques Ellul. Hein, et le système technicien, c'est-à-dire de Jacques Ellul, la théorie de Jacques Ellul, c'est que la technique, finalement, va petit à petit remplacer non seulement les moyens, mais aussi les fins, la fin de l'humanité. Vous voyez, la fin, c'est-à-dire que finalement, on invente de la technique pour créer de la technique, mais que l'humain va disparaître petit à petit. Voilà. Et ça, Michel Jury, c'est, je dirais, une des interrogations que l'on va retrouver donc, dans ses romans. Hein, voilà, donc il y a déjà une superposition de plusieurs dimensions donc, dans sa vie. La vie du paysan qu'il était, bien sûr, de façon substantielle et pendant une grande partie de sa vie, et la projection de l'écrivain, bien sûr, qu'il souhaitait être, et notamment écrivain de science-fiction. Voilà. Alors justement, par rapport à tout cela, eh bien, on va voir. J'ai réduit, si vous voulez, l'analyse à la trilogie chronolithique parce que c'est déjà assez complexe. Vous voyez, je pouvais pas en une heure, on n'a pas le temps, et de vous présenter un auteur et bien sûr d'analyser donc une bonne cinquantaine de romans. Et donc, je vais vous faire des petites lectures du Temps incertain, des Singes du temps et de Soleil chaud. Poisson des profondeurs. Passer par ces textes va permettre une approche précise des principes de ces troubles de la réalité. Alors, premier principe, et premier rapport à la réalité, eh bien, c'est la technique littéraire. Parce que ce que veut faire Michel Jury, vous allez le comprendre tout de suite, c'est brouiller les perceptions du lecteur, la réalité du lecteur. Et comment est-ce qu'on brouille les perceptions du lecteur? Eh bien, quand vous lisez une histoire, donc c'est une histoire qui, 90% du temps, se déroule de manière chronologique. D'accord ? Un récit qui se suit chronologiquement, d'accord ? Où il y a des événements qui sont enchaînés, je dirais, de cause à effet. Bon, c'est enchaîné de manière logique, chronologique et logique. Michel Jury, lui, ce qu'il va faire, c'est casser cette logique-là. C'est-à-dire qu'il va vous présenter, alors par exemple, dans Le Temps incertain, la difficulté du temps incertain, c'est que nous sommes dans trois histoires différentes qui vont se croiser et dans la conscience de trois personnages différents. D'accord ? Et trois époques différentes. Et donc, les séquences que vous lisez au fur et à mesure du récit sont des séquences mélangées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un paragraphe dans la tête d'un personnage, Daniel Vierson, 1968, et le paragraphe d'après, sans aucune logique, vous allez vous retrouver dans la tête du personnage de 2089. C'est donc le personnage de Robert Holzack qui, en fait, est le personnage donc du voyageur temporel, via la chronolyse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que déjà, quand vous rentrez dans le livre, vous avez déjà une perception troublée de la réalité de ce que vous êtes en train de lire. D'accord? Alors, c'est pas nouveau. C'est pas Michel Jury qui a inventé ça. D'accord? Parce que il y a eu d'autres écrivains, et notamment des écrivains du nouveau roman, qui ont tenté ces expérimentations, en quelque sorte, littéraires. Si vous lisez, par exemple, La Route des Flandres de Claude Simon, alors c'est beaucoup plus tard, ce sera en 1985, mais dans La Route des Flandres, pareil, vous avez trois époques, trois personnages, et Claude Simon a fait une chose, c'est qu'il a écrit sur ces trois histoires sur des papiers de couleurs différentes, qui ensuite, il a pris tous ses feuillets, il les a mélangés, il a découpé chaque paragraphe, il a tout jeté par terre, et après, il a envoyé sur un immense tableau, comme ça, il a collé ces petits morceaux de feuilles, dans le désordre, avec des couleurs différentes. Et donc, il a repris ces paragraphes-là, et il les a édités. Et ça a donné La Route des Flandres. Ce qui veut dire que le lecteur, quand il commence à lire La Route des Flandres, il lit peut-être la fin de la deuxième histoire, d'accord, qui se passe dans les années 40. Que le passage d'après, c'est le milieu de la troisième histoire et nous sommes dans les années 70. D'accord ? Donc Michel Jury fait exactement la même chose, mais en plus, lui, il va rajouter le voyage temporel, histoire de brouiller encore plus, c'est-à-dire qu'on a un passage et qu'on va avoir des liens qui vont se créer dans les trois consciences des personnages, parce que ces trois personnages-là sont en réalité une seule et même conscience qui voyage dans trois consciences différentes, puisque le voyage temporel se fait dans la tête via l'absorption d'une drogue qui s'appelle la chronolyse. D'accord ? Donc je vous lis Le Temps incertain, la première séquence. Voilà. Donc première séquence. Le message que je tente de vous adresser vous parvient en réalité d'une façon beaucoup plus complexe et il peut être déformé pendant la transmission. Je ne suis pas telle que vous me voyez. 9. Docteur Holzack, une mauvaise surprise vous attend à Gare et Shankar. Essaie d'atteindre la mer Gong, Pisicato et Cymbale. Impossible de croire qu'il arriverait vraiment quelque chose si je donnais. 3 points de suspension. 8. Un petit coup de volant à droite vers les arbres, tu t'écrases contre un arbre et tu es tué. Tu te réveilles sur la route, un coup de volant, tu t'écrases contre un arbre, tu es. 7. Tué. Tu te réveilles sur la route, un coup de volant, tu es un pauvre type qui n'appartient pas à l'histoire. HKH, me fous de la science, l'injection de ce truc, mon vieux, plus rien, ne. 6. Réellement en danger, empire industriel, fasciste. Pouvez-vous venir chez Monica Gersten Forestier, fous le camp ordure, t'es assez vu. Renato, matelas ingénieur au complet usé, cette dégueulasse patte esquintée, tuée. 5. Mon seul amour, Renato de Gary Shankar, en train de passer un mauvais quart d'heure dans l'espace chronolithique. Faites pas le malin d'hier sans marin à la main mutilée, le faux le plus grossier que j'ai jamais vu. 4. Mois de mai 1998, achevé dans la confusion et la confusion dans le temps incertain. Il n'y a que tout de suite et 18 mois de chômage. Ma femme qui, ta gueule, pauvre cloche, me suis flinguée à cause de 3. Pas qu'il dorme après la piqûre, dangereux, pas sur le même plan de la réalité que cette coquille bleue. Regarde si c'est du médecin chef, vous demande aux cartes HKH, patron, mon vieux, téléphone de Gary Shankar, 2, etc., etc. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le début du temps incertain.
Il y a des typographies différentes ?
Oui. Non, il n'y a pas de typographie, pardon, pas de typographie différente. Il y a juste 3 points de suspension, hein, donc quelques marques de ponctuation qui peuvent guider le lecteur. Vous voyez ? Mais là, en fait, c'est le docteur Robert Olzak, qui est le voyageur temporal, à qui on injecte le produit et qui, petit à petit, va intégrer différentes séquences temporelles. Mais on est au début du roman. Donc, vous voyez, il faut comprendre ça. Et justement, le temps incertain, c'est difficile à lire pour certains lecteurs à cause de ça. Donc, il faut s'accrocher et il faut vraiment lire jusqu'au bout. D'accord ? Donc, voilà déjà, dans un premier temps, la réalité que Michel Jury vous donne à lire, qui est une réalité totalement brouillée, mais brouillée d'un point de vue également littéraire et d'un point de vue de la technique du récit. D'accord ? Voilà. Alors, un petit peu plus loin, on nous explique qu'est-ce que la chronolyse ? Donc, la chronolyse, cette drogue qui permet de voyager dans le temps. Qu'est-ce que la chronolyse ? Une perturbation profonde du temps, dans l'esprit du sujet, naturellement. Mais s'il y a prédisposition ou si la dose est dépassée, le temps finit par ne plus exister du tout pour le malade. Alors le rêve peut se prolonger indéfiniment. Il se substitue à la réalité ou, dans certains cas, l'impossibilité du retour à l'état de veille. Et quelques minutes paraissent souvent des jours et des mois au rêveur. Il y a déjà eu des accidents très graves, la folie ou la mort. C'est curieux que j'en entende parler pour la première fois. Les laboratoires s'efforcent de garder le silence sur ce phénomène. Donc en fait, deuxième principe, c'est que non seulement on perturbe la conscience du lecteur par la technique littéraire, mais ensuite, on lui dit quoi ? On lui dit qu'avec l'absorption de la chronolyse, donc de la drogue, eh bien la personne va voyager dans le temps, dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle va rêver, une sorte de rêve si vous voulez. Alors, là où c'est troublant, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce que ça se passe vraiment ? Ou est-ce que c'est une illusion, finalement, dans la tête de celui qui a pris la drogue ? Vous voyez ? Bon, il ne faut pas oublier qu'on est en 1973, d'accord ? Et que des expériences, je dirais, avec certaines drogues, eh bien, ça fait partie du quotidien des gens. Michel Jury, lui, ne s'est jamais drogué, hein, il était très très loin de tout ça. Et je crois que, ici, voilà, on peut se poser la question... Est-ce que c'est un vrai voyage temporel ou est-ce que finalement c'est le personnage qui ne va pas rêver sa vie ? Vous voyez, il y a une sorte d'ambiguïté et cette ambiguïté-là, on va la retrouver notamment dans Les singes du temps, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Troisième séquence. Qu'est-ce qui se passe quand on est en chronolyse ? Parce que les personnages, finalement, quand on lit donc le roman, on va se retrouver face à des scènes qui se répètent. Par exemple, un des personnages de 1966, qui s'appelle Daniel Diersant, donc qui est celui qui est à l'origine, finalement, de l'histoire, eh bien, Daniel Diersant va se voir revivre une fois, deux fois, trois fois, 15 fois, finalement, la même scène, avec des très, très légers changements, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est dans un temps, si vous voulez, qu'on appelle l'indéterminé ou le temps incertain, hein, c'est ça le temps incertain, où il peut avoir un certain pouvoir sur ces scènes qui se répètent. Alors ça, c'est un classique, je dirais, de la science-fiction, et notamment du rapport au temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film qui s'appelle « Un jour sans fin », vous avez sûrement vu, hein, c'est un classique dans les années 80, où le personnage est bloqué dans la même journée qui va se répéter indéfiniment, jusqu'à ce qu'il trouve la clé pour sortir de cette boucle temporelle. Donc ça, c'est quelqu'un qui est enfermé dans une boucle temporelle je veux dire, c'est une thématique qui est assez classique en science-fiction. Et donc là, vous avez exactement ça, mais Michel Jury, encore une fois, complexifie le phénomène, puisqu'il fait se répéter ces boucles temporelles dans trois consciences différentes, à trois moments chronologiques différents de l'histoire. D'accord ? Voilà. Alors, justement, qu'est-ce qu'on appelle le temps incertain ? Vous avez été projeté dans l'indéterminé à la suite d'un événement, oui, d'un accident. C'est à vous de découvrir ce qui vous est réellement arrivé. Je ne puis guère vous aider sur ce point. Je vais tout de même essayer. Ce qui s'est produit dans le temps incertain se reproduit systématiquement avec plus ou moins d'exactitude. C'est une loi de la chronolyse. Le passé se répète sans cesse et vous barre en quelque sorte la route de l'avenir. Cela peut vous aider, mais attention à ne pas vous laisser piéger.
Ça s'est repris dans plus d'Atlas aussi.
Oui, tout à fait, absolument, absolument. Oui, oui, c'est pour ça que quand vous avez lu Le Temps Incertain, bon, c'est pas le premier roman, évidemment, hein, sur le temps, mais c'est quand même un roman qui est totalement novateur parce que Michel Jury a vraiment inventé, si vous voulez, cette notion de voyage temporel. Donc, dans la tête, dans la conscience des personnages. Et il y a toujours cette ambiguïté fondamentale, c'est-à-dire, est-ce que c'est la réalité ou pas ? Vous voyez ?
C'est Ubik aussi.
Bien sûr, bien sûr. Alors ça, j'allais vous en parler un tout petit peu après. Hein, voilà, évidemment. Voilà. Alors, le problème, c'est que les personnages sont enfermés dans une réalité qu'ils ne maîtrisent pas. Et voilà, par exemple, ce qu'un personnage qui est donc Daniel, toujours Daniel Yersan, il est tout fait, certes, mais il avait toujours éprouvé cette sensation d'être enfermé dans un labyrinthe. Cela faisait belle lurette qu'on lui avait volé l'horizon. Malgré tout, il gardait l'espoir d'en sortir et il savait qu'il ne le perdrait jamais. Avant l'accident temporel, il avait souvent eu l'impression que sa vie était un rêve. Ainsi, lors de ses randonnées nocturnes autour de Paris. Que par un brusque retournement, le rêve eût maintenant sa vie, ne le surprenait guère. Voilà. Donc, troisième principe que Michel Jury utilise en quelque sorte pour brouiller la réalité par rapport au lecteur, c'est l'analogie entre le rêve et la réalité. Alors ça, c'est pas nouveau non plus. Parce que Descartes en avait déjà parlé, par exemple, dans les méditations métaphysiques, en se posant la question, certains rêves nous semblent tellement réels qu'on peut se demander si ce que nous vivons n'est-ce pas également un rêve, et ce que nous rêvons n'est-ce pas la réalité. Vous voyez ? Et Michel Jury, qui était un grand lecteur également de philosophie, a repris pour lui ce principe-là. C'est exactement ce qu'il injecte dans le temps incertain. Voilà. Voilà. Alors, dernière séquence que je souhaitais vous lire. Voilà. Alors ensuite, eh bien, le temps incertain et la drogue vont quand même provoquer des effets sur les personnages. Et donc, les personnages, à un moment donné, vont comprendre qu'ils sont donc confrontés à différentes réalités dans différentes séquences temporelles. Et donc, ils se sentent eux-mêmes brouillés. Le rêve avait rongé le passé. Il n'était sûr de rien. Il résolut d'affronter la vérité, ou du moins ce que ses sens voulaient bien lui présenter comme vrai. Il s'observa dans la glace du lavabo. Son image lui parut anormalement floue. Peut-être un effet de cet éclairage mystérieux. Plus il la fixait, moins elle était nette. Ou bien quelque chose n'allait plus du côté de sa vue ou de son cerveau. C'était en somme rassurant. Il avait donc de bonnes raisons d'être à l'hôpital. Il y avait pire. Dans le miroir, un visage inconnu se superposait au sien. Puis les deux se mélangeaient pour en composer un troisième. Psychose hallucinatoire, dédoublement de la personnalité ou lésion cérébrale. C'était un symptôme assez horrible. Mais Daniel préférait de toute façon... Alors, citation hein, qu'il faut noter. Préférait de toute façon être malade dans un univers sain que sain dans un univers malade. Donc la question évidemment ici que pose également Michel Jury, c'est cette notion d'univers malade. Parce qu'en réalité, dans ces trois romans, hein, donc dans les Singes du Temps, dans Le Temps Incertain ou dans Soleil Chaud, Poisson des Profondeurs, bien il faut se poser quel est le but finalement à tout ça. Pourquoi ce brouillage de la réalité, pourquoi ce brouillage dans l'appréhension du temps? Qu'est-ce qu'il veut faire, Michel Jury ? Qu'est-ce qu'il veut finalement ? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? Alors, je dirais, d'abord, eh bien, la réalité, elle est brouillée pour voyager dans le temps. Ça, vous l'avez bien compris, grâce à une prise de drogue qui va brouiller les perceptions. Deuxième principe, je ne vous en ai pas parlé, puis malheureusement, je crois que je n'aurai pas le temps, c'est vivre dans une non-réalité que Michel Jury appelle la perte en ruaba. Alors, la perte en ruaba, c'est une dimension où le temps se crée et s'abolit. Voilà, c'est-à-dire que les voyageurs, à un moment donné, arrivent sur une espèce de plage où il y a des sacs avec de la nourriture, où il fait doux, où il fait bon, où ils ne pensent... Voilà, alors, hop, on ne peut pas... Attendez, je vais essayer. Bon, alors, vous voyez ici, on est dans les Landes, en fait, et Michel Jury, donc avec un ami à lui, eh bien, va tenter... Merci, Emmanuel. va tenter... de réfléchir à ce concept de la perte en ruaba. Voilà, vous voyez, de façon très concrète, hein, exactement. Donc, il y a une série de photos qui a été prise à ce moment-là. Bon, je ne sais pas si la photo d'après, j'espère que... Voilà. Et là, en fait, dans la perte en ruaba, il n'y a plus d'horizon. Alors, avec cet ami, vous voyez, ils se sont mis par terre sur la plage, dernière photo de Michel Jury, au passage, et ils ont essayé de voir comment, finalement, ça pouvait, comment on pouvait faire pour ne plus voir un horizon. C'est des choses qu'il a testées réellement, c'est assez incroyable quand même. Hein. Voilà, donc très, très jolie photo. Si vous voulez, merci, c'est arrivé au bon moment. Je suis désolée, mes photos, c'est complètement aléatoire, comme l'œuvre de Michel Jury. Vous voyez, là, on passe des années 70 aux années 1938-39. C'était quand même un personnage assez étonnant. Voilà, alors, donc je reprends. Donc, vivre dans une non-réalité où le temps s'abolit, où le temps disparaît, qui s'appelle la perte en ruaba et qui est donc présente à la fin du temps incertain. Troisième principe, abolir la mort par une perception subjective du temps. C'est-à-dire que dans Les singes du temps, vous avez le personnage qui va comprendre que s'il arrive à étirer une seconde de sa vie dans le temps incertain, en fait, il ne mourra jamais, parce que la seconde va être étirée, 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 étirée. Vous voyez ? Il reste donc dans cette seconde-là. Donc, c'est une sorte d'abolition de la mort. Et enfin, quatrième principe, c'est vivre... Alors ça, c'est dans « Soleil chaud, poisson des profondeurs ». C'est vivre dans des mondes virtuels qui sont générés par des ordinateurs Fordo, Fordo avec PH, des hypersystèmes informatisés qui vont prendre le pouvoir. Alors, voilà, je terminerai là-dessus. C'est-à-dire que, pour Michel Jury, le futur n'est pas seulement un lieu où l'on accède mécaniquement, hein, chronologiquement, mais une structure d'accueil à construire afin de conserver ou de retrouver une identité d'homme, un territoire humain. D'accord ? Donc ça, c'est évidemment le titre d'un de ses romans. C'est-à-dire que dans cette trilogie chronolithique, le temps incertain, eh bien, va permettre finalement, en quelque sorte, cette bagarre dans le temps incertain, va permettre d'échapper à une sorte d'empire militaro-industriel qui s'appelle HKH, Harry Krupp Hitler. Il y a plusieurs noms, hein, je ne les ai pas tous relevés dans le temps incertain. Va permettre dans Les singes du temps d'échapper aussi à une sorte de totalitarisme mystico-écologique. Alors vous voyez, hein, aujourd'hui on en est où là ? Par rapport à la religion, par rapport à l'écologie, certains écologistes sont quand même très extrémistes, puisqu'ils ce qu'ils veulent c'est la destruction finalement de l'humanité. Et enfin, dans le troisième, Soleil chaud, poisson des profondeurs, les gens, finalement, finissent par ne vivre uniquement que dans des univers virtuels, des univers de jeux. Jeux vidéo.
On est en plein dedans.
On est en plein dedans, exactement.
Des casques à réalité,
voilà. Et donc, le brouillage de la réalité chez Michel Jury, qui passe au début, justement, par ce rapport au temps, eh bien, c'est exactement cela, c'est-à-dire nous projeter dans un futur qui, aujourd'hui, est en train de se mettre en place. Vous voyez ? Mais vu depuis les années 70. Hein, donc, les trois romans, 73, 74, 76, vous voyez. Et donc, il nous projette... Je ne dirais pas que Michel Jury était prophète, mais il avait quand même vu un certain nombre de choses. Voilà. Alors demain, c'est samedi matin. Samedi matin, il y a une table ronde, donc hommage, où vous entendrez Michel Jury, évidemment, parler de tout cela, sans doute bien mieux que cela, évidemment. Et puis, beaucoup de choses, encore une fois, sont expliquées dans ces carnets chronolithiques, hein, si ça vous intéresse. Voilà, c'est en vente à la librairie. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques éléments de compréhension. Vous voyez, on aurait pu faire beaucoup plus de heures hein, sur le sujet, mais c'est très très riche. Oui, Emmanuel.
Alors, c'est deux choses. D'une part, le court-métrage qu'on va présenter samedi, on voit Michel dire lui-même des trucs très intéressants sur la déformation du temps et sur la perception de l'avenir, notamment des jeux vidéo, des
oui.
comme ça, la fusion du cinéma avec les jeux. Et une anecdote que, par rapport au temps incertain, c'est le premier chapitre qui décrit la plongée des docteurs Holzach dans la chronolyse. Et sa fille, Dani, a eu une lecture très particulière au moment du décès de son père, puisqu'elle a accompagné dans ses derniers jours. Et elle nous a raconté qu'en fait, elle n'avait pas lu les livres de science-fiction de Michel, parce qu'elle était soit pas née, soit plus jeune. Mais quand elle a lu, à un certain moment du décès de son père, en fait, le premier chapitre décrit le calvaire que son père a vécu, au moment de sa mort. C'est-à-dire le passage dans le coma, et la lutte contre le coma ouais. pour s'en sortir et tomber dans ce
c'est le premier texte que je vous ai lu.
Vit,
vous
savez, il y a c'est une voilà. lecture très particulière dont nous a fait part, mais juste au moment des obsèques où on a découvert ça. C'est-à-dire que 40 ans à l'avance, il avait décrit ce mot. En plus d'avoir fait cette croix.
Oui, voilà, vous voyez qu'il était c'était quand même extrêmement troublant.
Il avait voyagé dans son propre terrain.
Voilà, oui, c'est vers cette. Voilà, donc là, écoutez, je vais vous laisser en compagnie de mon collègue Simon Bréant, qui lui va vous parler de la science-fiction française. Donc après une focalisation sur un auteur, vous allez avoir, je pense, un très beau panel. Voilà.
Merci.
Mais derrière.